très heureux d'être ici moi aussi, d'être à Lyon, que je ne connais pas. J'ai eu l'occasion de passer une fois dans ma vie avant, et que je vais peut-être pouvoir découvrir cet après-midi un peu plus. Et puis je suis très heureux d'être à l'ENS et puis d'être là dans ton séminaire, Frédéric, pour parler des questions de jeunesse en Tunisie, et surtout des questions de jeunesse, je dirais, à travers un prisme essentiel qui est celui de l'emploi et de la précarité aujourd'hui. Alors vous allez constater tous que ce que je vais aller dire, laisse penser de manière presque immédiate ce qui s'est passé à la fin 2010, au début de l'année 2020, c'est-à-dire la révolution, ce qu'on appelle le printemps arabe. Ce printemps arabe a traversé en quelque sorte filigrane, je dirais, une bonne partie de mon propos, même si je ne vais pas peut-être insister sur cela, je vais être un peu plus technique, entre guillemets, d'accord, de ma présentation. Alors, mon propos se situera à deux niveaux. Quand on pose, je pense, la question de l'emploi des jeunes en Tunisie, il y a deux niveaux d'analyse ou de réflexion. D'abord, on va dire, réellement la question, on va dire, de l'emploi des jeunes en Tunisie, comment elle se présente, objectivement, d'une certaine manière, d'accord, les politiques publiques liées exactement à l'insertion professionnelle des jeunes, ça c'est un premier niveau, on va dire, objectiviste, d'une certaine manière. Et puis il y a un autre niveau, qui est un peu plus intéressant à mon sens, et qui est exactement le fait de voir comment ces jeunes-là vivent la précarité, l'instabilité professionnelle, comment en fait ils essaient de bricoler d'une certaine manière leur vie dans un contexte de précarité. Voilà. Et voilà, les questionnements sur lesquels je vais m'attarder sont les suivants, d'une certaine manière. D'abord, quelles sont les conditions objectives dans lesquelles, je dirais, les jeunes acceptent pour travailler aujourd'hui en Tunisie? Quels sont les enjeux politiques liés à la question de l'emploi des jeunes? En quoi, d'une certaine manière, l'emploi des jeunes, et le chômage surtout des jeunes, et des jeunes diplômés en particulier, nous allons le voir, interpelle la société dans son ensemble, d'une certaine manière? Quel problème pose exactement cette question de l'emploi des jeunes diplômés en particulier aujourd'hui? Et puis, et l'autre versant dont je viens de parler est aussi important à mon sens, la question est de savoir comment les jeunes font face, d'une certaine manière, à la précarité, aux situations de chômage, et quelles sont leurs trajectoires, par quel biais ils tentent en quelque sorte de s'en sortir et de résister à, je dirais, à des situations de plus en plus compliquées. Alors, pour répondre à ces questions, pour essayer d'analyser, je dirais, peut-être un peu à ces deux niveaux d'analyse en même temps, je vais essayer de tirer profit de ce qui existe aujourd'hui dans une vision de la question. D'accord ? Moi, j'ai fait un travail sur les adolescents, par exemple, dans lequel il y avait pas mal de données sur des questions comme celle de la vocation, du rapport au travail, des choses un peu de ce type, d'accord. Mais je vais essayer, dans ce propos-là, de mobiliser, on va dire, une bonne partie de ce qui a été fait sur la question en Tunisie. Et mes données ou mes informations sont de deux types, ou de trois types plutôt. D'abord, des données statistiques. Ensuite, des rapports d'expertise élaborés par des institutions tunisiennes, par exemple le ministère de l'Emploi, mais aussi par des organismes internationaux, la Banque mondiale, la GTZ par exemple, qui a fait pas mal de choses sur les jeunes et sur l'emploi des jeunes en Tunisie, etc. Et puis, le troisième type de matériau, et c'est ça le plus intéressant dans le sens, c'est un certain nombre d'études, en quelque sorte d'incursions, si je veux dire, ethnographiques, sur le vécu de la précarité, sur les expériences en quelque sorte des jeunes par rapport au travail et par rapport à l'emploi. Et là, nous avons un certain nombre de travaux de type qualitatif qui sont très intéressants et très parlants, même si exactement, bien sûr, comme toute recherche qualitative, elles n'ont pas de portée, on va dire, elles ne sont pas extrapolables d'une certaine manière, on ne peut pas les généraliser, d'accord, mais ça nous donne des indications très précieuses parfois. Alors, avant peut-être d'attaquer, je dirais, du morceau, en quelque sorte, ces deux niveaux d'analyse, je voudrais d'abord, bien sûr, faire une petite précision sur le contexte dans lequel se pose aujourd'hui la question de l'emploi des jeunes en Tunisie. Alors, on va dire, l'emploi des jeunes a commencé à poser problème en Tunisie à partir, on va dire, du milieu des années 80, et essentiellement à partir de ce qu'on appelle le PAS, le plan d'ajustement structurel en Tunisie, qui était un levier de libéralisation de l'économie en Tunisie. Un levier de libéralisation par plusieurs voies. Le rationnement du recrutement dans la fonction publique, le fait d'essayer de donner un coup de fouet, si je veux dire, au secteur privé, le gel parfois même, je dirais, de recrutement dans, dans la fonction publique, pour certaines, dans certains secteurs, et une sorte de tentative de réhabilitation des mécanismes du marché, d'une certaine manière. Ce passe, ou l'effet de ce passe, va être accentué par d'autres réformes, par d'autres paramètres qui vont entrer en jeu au fur et à mesure. D'abord, bien sûr, l'adhésion de la Tunisie au GATT, puis à l'OMC, qui va accentuer, je dirais, cette première note, et puis la conclusion des accords de libre-échange avec l'Union européenne en 1995. Et on est vraiment, à partir de cette date, on est bien parti, je dirais, pour une économie libérale, hybridée, etc. Alors, le problème, c'est qu'on dépit, je dirais, d'un taux de croissance qui n'était pas mauvais pendant des années. Hein. Vous savez très bien, vous rappelez tous ce qu'on disait sur la réussite du système Ben Ali, en quelque sorte. Hein. Il réussissait à atteindre des taux de croissance de 4, 5, 6, peut-être même 8, officiellement, % par année. En dépit de cette croissance, d'accord, je pense que la course à la compétitivité, à travers la compression des charges salariales, des coûts salariaux, etc., a empêché le secteur privé de compenser en quelque sorte le déficit de l'emploi dans l'établissement et la fonction publique. Et petit à petit, en quelque sorte, un retard en quelque sorte, va s'accumuler progressivement. Et on va voir comment ce retard qui va s'accumuler progressivement va, en quelque sorte, engendrer une sorte de crise qui va commencer au départ un peu je dirais, insidieuse, en quelque sorte, et qui va grandissant avec le temps. Alors, en parallèle, je dois peut-être souligner une chose. Il y a eu une réforme du Code du travail en Tunisie, on est du fort, comme ça se fait toujours, généralement, dans ce genre de situation. Le Code du travail a été amendé deux fois, ou réaménagé deux fois, en 1994 et 1995, pour introduire, comme disent les politiques à l'époque, plus de flexibilité. Alors, vous savez que le mot flexibilité peut être est synonyme de flexibilité. Et exactement ça, cette flexibilité signifie, pour les politiques à l'époque, la mise en place de nouveaux contrats de travail à durée déterminée, les CDD, et exactement à temps partiel essentiellement. Et c'est toutes ces réformes juridiques étaient censées accompagner, en quelque sorte, je dirais, les transformations du monde du travail, mais exactement... Elle permettait également, ou elle créait les conditions en quelque sorte, je dirais, d'un nouveau rapport au travail, d'une nouvelle forme d'emploi en Tunisie. Enfin, elle entérinait juridiquement, je dirais, une nouvelle forme d'emploi en Tunisie. Alors, ce que j'ai oublié de dire jusque-là et qui est très important, c'est que parallèlement à cette crise du marché de l'emploi, en amont de cela, il y avait une autre crise qui est aussi importante, qui est la crise du système éducatif en Tunisie, à travers exactement. On va dire, et qui se laissait voir, qui apparaissait à travers tous les dysfonctionnements d'un système éducatif de plus en plus massifiant, de plus en plus massificateur, d'accord, et à travers, paradoxalement, ce qu'on pourrait appeler l'amélioration du rendement du système scolaire. Hein. Une école qui produit beaucoup, beaucoup trop, j'ose dire, de diplômés et d'instruits, d'une certaine manière. Et tout cela va s'accompagner, comme vous le savez, il y a les travaux connus, même en France, ça, hein, de Dubé par exemple, etc., hein, on voit très bien que cela engendre très souvent, je dirais, une baisse de la qualité de formation, engendre une inflation des diplômes qui ne valent plus rien sur le marché de l'emploi, etc. Et à partir de cette date, d'une certaine manière, à partir de la fin des années 90, c'est-à-dire les chemins de l'école et ceux du travail, de l'emploi ou de l'accès à l'emploi, vont petit à petit se séparer. Et le diplôme va perdre concrètement sa qualité, en quelque sorte, de condition d'accès à un emploi. Un emploi digne. Un emploi, exactement, qui permet à l'individu de s'assumer plutôt socialement, d'avoir un statut, en quelque sorte, honorable en société. Alors, petit à petit, vis-à-vis de cette situation, cette séparation entre sorte le système éducatif et le marché du travail, les politiques vont essayer d'apporter des solutions à cela. Et le maître mot de leur analyse va être, de leur politique, va être la question d'employabilité. Ils vont dire, si ça ne marche pas, c'est que les filières qui ont une faible employabilité dominent, hein, et qu'il fallait par conséquent réformer les systèmes de formation et de d'enseignement. Et ils vont procéder à cela à travers deux choses essentiellement. D'abord, à travers ce qu'on a appelé à un moment donné la création des ISET, des instituts supérieurs technologiques, qui sont censés répondre immédiatement, d'accord, à la demande du monde du travail, à la demande des entreprises, etc., à travers la création, la mise en place de filières courtes. Et puis aussi, la deuxième pièce maîtresse de ce dispositif qui doit permettre, on va dire, une amélioration de l'employabilité, c'est toute la réforme, en quelque sorte, de l'enseignement supérieur à travers ce qu'on appelle ici le processus de Bologne, d'accord, la réforme LND. Cette réforme LND était censée aussi apporter plus d'efficacité au système d'enseignement à travers des filières plus courtes, plus orientées vers le marché de l'emploi, etc. D'accord. Et moi, je me rappelle très bien, moi, par exemple, j'étais à l'époque, j'étais dans des commissions aussi, hein, la consigne officielle était de créer de plus en plus ce qu'on appelle des licences professionnelles, hein, qui sont censées être indexées directement sur le marché de l'emploi, indexées directement sur des professions ou pour le moins sur des métiers. D'accord. Mais on sait très bien que cette politique n'a pas donné les fruits qu'on espérait. Et puis, troisième élément, bien sûr, et ça c'est très important, hein, qui devait permettre de régler le problème d'après les politiques, c'est ce qu'on appelle la politique active de l'emploi. Et je reviendrai sur ce terme actif parce qu'il est très important. Active, ça veut dire une politique qui est censée aider les jeunes à s'insérer à l'emploi et non pas les indemniser. Dans la littérature officielle consacrée par les institutions officielles, hein, on distingue la politique active, celle de la France par exemple, qui indemnise les chômeurs, d'accord, et la politique active qui est censée non pas indemniser les perdants qui sortent, hein, du système libéral, mais de les aider réellement à trouver, à régler le problème et à trouver un emploi. Alors, parallèlement à cela, et je termine peut-être avec ce point, l'État va mettre petit à petit des mécanismes qui permettent en quelque sorte, on va dire, de gérer le temps de l'attente. Hein, des concours, des, en quelque sorte des si j'ose dire, des espaces d'attente en quelque sorte, d'accord, au terme institutionnel, d'accord, qui vont permettre aux jeunes, en quelque sorte, de petit à petit, exactement, progresser dans leur cheminement vers le travail. Or, ces mécanismes-là, qui sont créés à partir aussi de la fin des années 90, ont rencontré une résistance très forte en Tunisie. Par exemple, on sait très bien que l'introduction du CAPES en Tunisie a donné lieu à un mouvement de contestation énorme dans les milieux étudiants. Et que les étudiants ont perçu ça comme une forme de diversion, d'une certaine manière, de la part des politiques, qui étaient jugés par eux comme incompétents dans la gestion du dossier de l'emploi. D'accord. Et je pense que petit à petit, hein, et à travers exactement ces premiers mouvements étudiants, je pense que ce qui va se passer après, hein, à la fin de l'année 2010, déjà commencé, je dirais, à prendre. Tout simplement. Était là déjà en route d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant peut-être à noter à la fin de cette première introduction, c'est de dire que la question de l'emploi, et surtout l'emploi des jeunes, hein, des jeunes instruits en particulier, d'accord, va devenir, je dirais, une menace importante. Une menace qui met en danger, en quelque sorte, les régulations sociales, qui mettait en danger la légitimité de l'État en tant que telle, et qui mettait en question les équilibres, hein, sociaux et surtout la capacité de l'État à répondre à la demande des jeunes. Cela fragilisait énormément, je dirais, la légitimité de l'État en Tunisie. Alors, j'en viens maintenant aux chiffres, pour décrire un peu la situation. Je vais essayer de vous donner à la fois les chiffres les plus officiels, qui remontent quand même à pas mal de temps, parce que le dernier recensement du livre, c'est 2004, d'accord, même ça fait pratiquement 9 ans. Ces chiffres ont été mis à jour depuis quelques temps, mais on ne sait pas réellement. Hein. Et je pense que le problème du trafic, en quelque sorte du trucage des chiffres, est un problème qu'on connaissait bien sur Paris, mais je crois qu'il continue un peu d'une certaine, manière, et je ne pense pas qu'on puisse réellement faire complètement, ou donner un crédit, je dirais, total aux chiffres qui sont aujourd'hui présentés comme étant les chiffres de l'emploi et du chômage en Tunisie. Alors, selon les données du recensement de 2004, je remonte très longtemps de temps, de 2004, le taux de chômage global était de 14%. 2011, c'est-à-dire à une date beaucoup plus proche de nous, d'après les estimations, on n'a pas de chiffres exacts, mais nous avons quand même des données d'enquête population emploi, qui ne sont pas aussi fiables que ceux du recensement général de la population et de l'habitat, mais qui donnent quand même des indications assez, on va dire, sérieuses. Mais on ne sait pas, comme j'ai dit, à quel point tout cela est tout à fait critique. D'après les données de 2011, de la fin 2011, ce taux de chômage général de la population serait de 18,9%, pratiquement 19%, c'est-à-dire presque une personne sur cinq. C'est énorme. Alors, le chômage en Tunisie est beaucoup plus lié à des difficultés d'insertion qu'à des problèmes de réinsertion ou de licenciement. Il concerne, bien sûr, par conséquent, beaucoup plus les jeunes. Alors que le taux de chômage de la population âgée entre 25 et 60 ans est de l'ordre de 10% seulement, d'après également les données de 2004, celui de la tranche d'âge 18-24 est de 28%. On voit très bien qu'on est là déjà dans le double de la moyenne nationale. Alors, d'autres chiffres sont aussi inquiétants. Ce chiffre, on va dire, ou ce taux de chômage des 18-24 ans atteint en 2007 31%. On sait aussi que plus de 70% des chômeurs ont enregistré la même année, c'est-à-dire en 2007 comme en 2008, en moins de 30 ans. Alors les chiffres actuels nous donnent des taux qui sont similaires et peut-être un peu plus graves, un peu plus inquiétants. Hein. On sait également, d'après les données de 2011, que exactement plus de 72%, 72,1% précisément pourcent, des chômeurs sont moins de 30 ans, auront moins de 30 ans en Tunisie aujourd'hui. Les données également de la même année nous indiquent que le chômage des diplômés est de 26,9%, c'est-à-dire près un peu plus que le cas. Alors, dernier point peut-être pour terminer cette parenthèse sur les chiffres, qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre un peu ce qui se passe, c'est que bien sûr, ces taux globaux, en quelque sorte, de chômage, sont beaucoup plus parlants, beaucoup plus également plus inquiétants quand on prend en considération les écarts. Par exemple, les écarts entre les filières. Hein, les sciences humaines et sociales, par exemple, et d'autres filières. Hein. On sait par exemple que les étudiants des filières juridiques et aussi de tout ce qui est gestion économique tertiaire sont très touchés par le chômage, beaucoup plus bien sûr que les métiers d'ingénieurs, etc. Et puis surtout, on sait très bien que ce chômage ne frappe pas avec la même force les différentes régions de la Tunisie. Et que les écarts entre exactement la Tunisie de l'intérieur, en quelque sorte, d'accord, et le littoral, les grandes villes, est très inquiétant. Je vous donne uniquement quelques indications. On sait par exemple que le taux de chômage général dans la région du sud-ouest est de 29,5%. Vous voyez très bien combien on est loin de la moyenne nationale. Ça, d'après les données de 2011. Hein, dans le centre-ouest, c'est-à-dire la région de Castille, etc., c'est déposé, d'où l'étincelle de la révolution est partie, ce taux de chômage est de 22,3%, alors que ce taux n'est que de 11% sur le Sahel, le littoral, c'est-à-dire le centre-est. Alors, vous voyez très bien que cette situation, d'accord, nous permet de comprendre à quel point, en quelque sorte, la situation pouvait être critique dans certaines régions. Alors, deuxième élément peut-être important, et là j'en viens à l'essentiel de mon propos en ce qui concerne la première partie de mon exposé, c'est que l'emploi des jeunes va devenir une priorité politique en Tunisie à travers laquelle se joue en partie la légitimité de l'État, d'accord, très tôt. Hein. Plusieurs indices le montrent. Par exemple, on commence déjà à faire des conférences nationales sur l'emploi des jeunes, hein, à partir de 98, fin des années 90, etc. Et toutes ces conférences, toutes ces grandes messes, en quelque sorte, qui devaient régler le problème de l'emploi des jeunes, vont aboutir à la mise en place de mécanismes très importants, par exemple des fonds, d'accord, qui sont censés soutenir exactement les politiques publiques en matière d'emploi, et d'emploi des jeunes en particulier. Deuxième indicateur très important qui montre à quel point le pouvoir politique, en tout cas, était sensible, était conscient de l'enjeu important en termes politiques, en quelque sorte, de cette question, c'est le fait que, exactement, la question de l'emploi des jeunes apparaisse dans les programmes du président Ben Ali, dans toutes ses campagnes pratiquement électorales. Hein. Ça commence en 1999, 2004-2009. Chaque fois dans le programme du président Ben Ali, il y avait un alinéa, il y avait une partie, il y avait un point, d'accord, qui était consacré à la question de l'emploi des jeunes, et à chaque fois, il promettait en quelque sorte de faire son possible pour régler ce problème. Troisième élément, qui est d'ailleurs très très intéressant à analyser, c'est, je dirais, la nomenclature, ou je trouve pas le terme, mais les dénominations, voilà, exactement, hein, officielles des institutions. Par exemple, à partir de 2004, le ministère de l'Emploi va être rebaptisé. Il portera désormais le nom officiel de ministère de l'Emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. On voit à quel point cette question était, en quelque sorte, une affaire vitale pour le pouvoir politique. Et dernier point qui est très important, et je m'attarderai davantage sur celui-là, c'est exactement le gigantisme, si j'ose dire, du dispositif de politique publique en matière d'emploi des jeunes. Hein. Un gigantisme qui va se traduire par l'empilement de plusieurs couches, hein, de politiques, de plusieurs couches de dispositifs qui vont venir s'entasser les uns sur les autres, d'accord, et qui vont malgré tout échouer à régler le problème de l'emploi des jeunes. Avant peut-être d'aller et d'analyser beaucoup plus attentivement ce dispositif, on va dire, de politique publique, qui est quelque chose de très intéressant à décrypter, on voit très bien, je vais vous essayer de montrer à quel point c'est important d'interroger tout cela, d'accord. Il est important, cela dit, de terminer avec une petite précision. C'est que tout ce que je disais jusque-là sur l'emploi des jeunes diplômés est à relativiser, tout compte. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, et jusqu'à aujourd'hui, le gros des chômeurs en Tunisie, ce ne sont pas les diplômés d'université. Ce sont toujours les décrocheurs de l'enseignement. C'est toujours les gens qui quittent l'école au niveau primaire ou secondaire, etc. Et pourtant, d'accord, pendant toutes ces périodes, et jusqu'à aujourd'hui, je crois, on continue à parler surtout de l'emploi des jeunes diplômés. Il y a une sorte d'obsession, si je veux dire, politique vis-à-vis de ce problème, qui montre à quel point, exactement, cette question d'emploi des jeunes diplômés rongeait, d'une certaine manière, hein, de l'estimité de l'État. À quel point elle rendait difficile, d'accord, je dirais, elle mettait à mal le pacte social dans la société d'aujourd'hui. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, moi je peut-être j'ai commencé à réfléchir sur la question avant la Révolution, d'accord, c'est intéressant de voir à quel point, jusqu'à la Révolution, hein, l'État, les médias, tout le discours public, en quelque sorte, sur les jeunes, s'est vertué, d'une certaine manière, à trouver des moyens de tourner pour parler de la question sans la nommer. Il y avait plein d'euphémismes, de détours, hein, langagiers, d'une certaine manière, d'accord, pour parler de cette plaie, d'une certaine manière, d'accord, sans réellement la désigner. Hein. Par exemple, on ne parle jamais de chômage, on parle plutôt de la question de l'emploi. Hein. On parle de questions, on ne parle pas de problème. On ne dit pas moshka, on dit maskalit, d'accord, etc. Alors, toutes ces pirouettes explosives, en quelque sorte, montrent à quel point l'État, les pouvoirs publics, mais aussi les médias, insistaient, si j'ose dire, sur cette question. question. Enfin, Plété était obsédé par cette question, mais en même temps, à quel point il ne pouvait pas l'aborder de front. Alors, à ce paradoxe, hein, qu'est-ce qui fait que la question de l'emploi des jeunes diplômés était au centre des débats alors qu'ils ne sont pas une majorité, je dirais. Hein. Il reste toujours une minorité parmi les chômeurs. Il y a deux réponses, si j'ose dire, à cette question. La première, la plus connue, c'est celle qui consiste à dire les diplômés ont plus de capacité de faire pression sur l'État. Et par conséquent, hein, l'État, en quelque sorte, essaie de régler le problème avant les autres. D'accord ? Mais moi, je pense que la deuxième réponse, à mon sens, est beaucoup plus pertinente. C'est celle qui consiste à dire que, exactement, si le chômage des jeunes diplômés interpelle davantage les pouvoirs publics, c'est qu'il interpelle davantage la société dans son ensemble. Et que surtout, ce problème met à mal, si j'ose dire, tout le dispositif politique, toute la politique de redistribution de l'État, toute la légitimité de l'État, et que surtout, ce modèle met à mal un modèle de justice sociale qui a été édifié au long d'un moment de l'indépendance en Tunisie et qui a pour centre, je dirais, la méritocratie scolaire. Hein. Un tas de, je dirais pas un tas, mais toute une génération, peut-être deux générations en Tunisie ont vécu sur ce modèle. Hein. Réussir à l'école pour pouvoir exactement s'assurer d'une certaine promotion sociale. Hein. Cette logique-là, à partir de la fin des années 90, ne fonctionnait plus du tout. D'accord ? Et c'est tout l'édifice qui a été construit autour de ça qui était menacé de, je dirais, qui menaçait lui, voilà, d'une certaine façon. Alors, peut-être juste une comparaison par rapport à l'Algérie, pour le collègue qui est là. La différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est que la Tunisie, où le modèle, en quelque sorte de distribution, hein, que l'État garantissait en Tunisie, tournait autour de ça, alors qu'en Algérie, tournait autour de la rente pétrolière et des produits de la rente. D'accord ? Et peut-être il est intéressant de voir dans quelle mesure exactement ces différences de donne de départ, en quelque sorte, vont être déterminantes ensuite dans ce qui va se passer. Parce que, par exemple, aujourd'hui, l'Algérie règle son problème en partie en utilisant cette rente pétrolière, ce que la Tunisie ne peut pas faire. D'accord ? Alors, je reviens à ce dispositif de politique publique. Vous me dites combien je dois parler, parce que là, je prends mon temps.
Oui, moi je me disais une bonne heure, une heure.
Ça fait combien de temps que je parle ?
Là, ça fait une demi-heure, 36 minutes.
D'accord.
Quelle décision ?
D'accord. Non, je crois que je tiens le temps.
C'est bon.
Je vais réussir. Alors, j'en viens maintenant à cette question de dispositif politique, enfin, des politiques publiques d'emploi en Tunisie. Comme je viens de le dire, ce dispositif est un dispositif colossal. Il avait pour vocation d'aider les perdants de la libéralisation à s'insérer dans le monde du travail. Alors, ce dispositif est colossal et comprend plusieurs niveaux, plusieurs organismes. Un ministère, bien sûr, un observatoire national de l'emploi et des qualifications, une agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, et je reviendrai sur cette appellation, elle aussi qui est très suggestive, d'accord. Et puis, cette agence a des bureaux un peu partout, 90 bureaux en tout, d'accord. En parallèle à cela, il va y avoir la création, d'accord, d'autres mécanismes de financement surtout, et d'encouragement en matière d'insertion en emploi. Alors, abstraction faite, on va dire, des premiers balbutiements, si j'ose dire, d'accord, de cette politique dans les années 80, on peut dire que le dispositif mis en place s'articule depuis maintenant 20 ans, un peu plus même, autour de quatre modalités principales. D'abord, l'aide financière à l'insertion ou à la réinsertion, d'accord, dans un emploi salarié. Deuxièmement, la formation et l'adaptation pour l'insertion en emploi. Troisièmement, la promotion de la micro-entreprise et du travail indépendant. Quatrièmement, l'amélioration de l'intermédiation sur le marché du travail, c'est-à-dire essayer de permettre exactement aux demandeurs d'emploi et à ceux qui offrent des emplois de se retrouver, de se reconnaître d'une certaine manière. Le plus important, à mon sens, c'est que cette politique publique a connu des tournants importants. Et c'est ça, peut-être, le point qui m'intéresse le plus. Dans cette politique publique, on peut repérer, si j'ose dire, trois moments idéologiques, hein, fondamentaux, très importants. Le premier moment, c'est le moment dans lequel on tend, ou l'État entend, par le biais des programmes mis en œuvre, à donner un coup de fouet à la salarisation. Et ce premier moment va être marqué par la mise en place de ce qu'on va appeler les stages d'insertion à la vie professionnelle, les SIVP. Les SIVP vont être une sorte de contribution de l'État qui, exactement, finance en partie le salaire des jeunes recrutés, d'accord, 105 dinars à l'époque, je ne sais pas combien maintenant, d'accord, et qui, exactement, permettait, si j'ose dire, aux entreprises et à l'État lui-même, d'une certaine manière, on va voir quels sont les effets pervers du système, d'accord, à en quelque sorte réduire en partie les charges salariales dues, je dirais, à l'emploi. Ça, c'est le premier moment. Ce qui est intéressant dans ce premier moment, c'est que l'État lui-même va se servir de cela. L'État qui ne recrute plus directement va en quelque sorte désormais recruter des jeunes, mais à des tarifs un peu plus bas, en quelque sorte, que les tarifs du marché de l'emploi, d'accord, à des prix et à des coûts moins élevés que ceux du marché de l'emploi, d'accord, et il va le faire de manière en quelque sorte détournée. Une manière qui à la fois satisfait la Banque mondiale et le FMI d'une certaine façon, d'accord, mais qui en même temps permet en quelque sorte à l'État tunisien d'éviter l'implosion, hein, que ça explose, que ça pète, si j'ose dire, d'accord. Et le régime de Benali va fonctionner pendant très longtemps sur ça. Hein. Les ministères qui n'en recrutent plus, en quelque sorte, on finit par se servir, si j'ose dire, de ce dispositif-là pour créer des emplois, mais qui sont aussi désormais précaires. L'État lui-même finit par entretenir la précarité d'une certaine manière, et cela, bien sûr, sans parler exactement des entreprises privées qui se sont données à cœur joie, si j'ose dire, en exploitant ces moyens-là. Ça, c'est le premier moment idéologique, hein, ce coup de fouet, si j'ose dire, à la salarisation. Le deuxième moment, et ce moment va être daté, on peut le dater, par le changement de l'appellation officielle de l'Agence de l'emploi, hein, qui était l'Agence nationale de l'emploi et qui a été rebaptisée en 2003 Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. Dans ce changement d'appellation, l'État, tout compte, disait aux jeunes, désormais, vous devez vous débrouiller, d'une certaine manière, d'accord. Et tout ce deuxième moment idéologique va tourner autour de cette idée d'encouragement, hein, à la création, je dirais, d'entreprises, de micro-entreprises, d'auto, en quelque sorte, emploi. Hein. Désormais, les jeunes doivent se débrouiller, doivent eux-mêmes monter leur entreprise. Et on est, par rapport à ça, presque face à ce que Karine Chalon tournait, hein, disait à propos d'Égypte, quand elle parlait de cette fiction de devenir en quelque sorte entrepreneur. Hein, de tous les jeunes sont sommés de devenir en quelque sorte des hommes d'affaires, d'une certaine manière, d'accord, des entrepreneurs. Alors qu'ils n'ont pas les ressources pour cela. Et l'État lui-même ne leur fournit que très peu de ressources pour le devenir. C'est pas parce qu'on vous donne un crédit de 5000 dinars que vous allez devenir un Bill Gates, je veux dire. C'est pas possible pour tout le monde. Et alors, dans ce dispositif, dans ce deuxième moment, hein, une institution va devenir très importante, qui est la BTS, la Banque tunisienne de solidarité, qui va donner ces microcrédits aux jeunes, sans demander en contrepartie des garanties que demandent des banques généralement. D'accord. Et ça a été perçu comme étant un moyen, en quelque sorte, de régler exactement les difficultés que rencontrent les jeunes pour exactement monter leurs propres affaires. Alors, puisque ça ne marche pas, puisque exactement toutes les solutions n'ont pas donné, à la fin, vers le milieu des années 2000 plutôt, d'accord, l'État va se dire, je mets le paquet. Il va créer ce qu'on pourrait appeler des formules ou des outils de synthèse. Et parmi ces outils de synthèse, figure un outil principal qui va être créé déjà à la fin 90, mais qui va fonctionner à plein régime au milieu des années 2000, c'est ce qu'on appelle le Fonds National de l'Emploi, le FNE, baptisé également, appelé également le Fonds 21-21 en Tunisie. Parce qu'il y a le Fonds 26-26 qui est censé aider exactement les régions défavorisées, les zones d'emploi dont je parlais hier avec vous. en aparté. Et ce fonds 21-21 comprend 35 mécanismes hein, qui vont de l'aide à l'immigration, en quelque sorte, à la formation professionnelle, à des formations complémentaires, à des formules d'apprentissage en entreprise, un tas de mécanismes, d'accord, qui sont censés tous converger vers un seul but, un but unique, qui est exactement l'aide à l'insertion professionnelle de l'emploi. Alors je termine cette première partie avec deux ou trois points très rapides, mais qui est intéressant à nous, c'est que le coût de ce dispositif est très élevé, ce que disent les économistes. Hein. La Banque mondiale estime le coût de ce dispositif à 1,5% du PIB tunisien. C'est beaucoup. D'accord. Pour un rendement très douteux. D'accord. Et la couronne, c'est qu'il n'a pas permis à l'État de prévenir le plus grave en quelque sorte. D'accord. De régler les problèmes sur le fond. Alors, il n'y a pas eu d'évaluation systématique de ce dispositif, mais on sait très bien que c'est un dispositif qui n'a pas donné, qui n'a pas tenu toutes ses promesses d'une certaine manière. Bon, plusieurs types d'évaluations existent. Par exemple, il y a des évaluations sur le nombre de bénéficiaires du système. Mais on sait aussi que comptabiliser les bénéficiaires ne veut pas dire exactement ou ne donne pas d'indication sérieuse et fiable sur le rendement du dispositif. Pourquoi ? Parce qu'un bénéficiaire peut bénéficier de quelque chose, mais après ça rate, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les personnes vont être plusieurs fois bénéficiaires, je dirais, de l'offre institutionnelle officielle, parce que exactement ça ne marche pas. Hein, ils obtiennent un prêt, ça ne marche pas. Après, ils sont appuyés pour partir en immigration, mais exactement ça rate. Après, exactement, enfin, ils sont pris dans des circuits de formation complémentaire, etc. Hein. Comptabiliser les bénéficiaires ne donne pas une idée sérieuse sur. Est fiable sur exactement le rendement du système. À la limite, et on va le constater, hein, une bonne partie de ce système va permettre en quelque sorte, d'une certaine manière, d'allonger les délais d'attente pour les jeunes. Hein. Ils vont passer une bonne partie en quelque sorte de leur vie, de leur jeunesse, à attendre que ça se règle en essayant plusieurs formules hein, successives d'une certaine façon. Et cela va permettre de les inscrire de fait, in facto, d'accord, dans des carrières de précarité. Nous avons, cela dit, un certain nombre de travaux, d'économistes essentiellement, hein, qui ont essayé d'évaluer le dispositif. Pas de manière systématique, parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation systématique de ce dispositif. Cette évaluation donne quelques indications précieuses à mon sens. Et je pense ici surtout aux travaux de Saïd Ben Sedri, d'accord, un économiste tunisien, qui a travaillé beaucoup sur ça, en partie avec Jesser, d'accord, sur mais il a fait des choses également tout seul. La première remarque de Ben Sedri est la suivante. C'est que ces dispositifs avaient beaucoup plus d'effets pervers que de capacité réelle à régler les problèmes. La première chose qu'il rappelle, et il a tout à fait raison, c'est que ces dispositifs étaient ambigus et produisaient également des statuts, en quelque sorte ambigus, des statuts ambivalents. Hein. Être stagiaire et CDD, comme il dit, ça ne rime à rien d'une certaine manière. On est ni inséré professionnellement, on est apprenti en quelque sorte, on est un étudiant en formation, on est un salarié. Moitié, enfin salarié déguisé, c'est vraiment des statuts qui sont problématiques d'une certaine manière et qui ne permettent pas aux gens de régler, je dirais, des problèmes essentiels qui sont des problèmes de définition de soi. Et je reviendrai à ce détail parce qu'il est important. Les questions identitaires au travail sont fondamentales et ça va être la deuxième partie de mon propos que je développerai ensuite. La deuxième chose qui est très importante et que dit Bassadé, c'est que ce dispositif va aider en quelque sorte les filières et les jeunes qui ont plus de moyens de s'en sortir, paradoxalement. Pas ceux qui sont les plus vulnérables. Hein. C'est-à-dire que tout compte fait, les entreprises vont profiter de cette aide à l'emploi pour recruter des gens ou des personnes qu'ils vont de toute manière recruter, avec ou sans exactement le soutien de l'État. Mais ils vont tout simplement le faire avec un coût, en quelque sorte, beaucoup plus raisonnable. Troisième élément très important, c'est que, en quelque sorte, ce dispositif va, par exemple, accentuer les formes de présélection à l'emploi et ce que les économistes appellent l'écrémage du marché du travail, c'est-à-dire le fait de prendre les meilleurs. Les entreprises, de cette manière-là, peuvent prendre, pour des périodes d'essai assez longues, parfois 2-3 années, des jeunes, les mettre à l'épreuve et après les rejeter, d'une certaine manière. Et faire cela grâce au financement d'État. C'est ça ce qui est peut-être scandaleux. Alors, tout cela pour terminer avec un point très important, c'est que face à ce dispositif complètement boiteux, d'accord, les jeunes vont toujours faire davantage confiance au réseau primaire, au capital social, communautaire et à la famille. Et ils ne vont pas, ou ils vont très peu, se tourner vers ce dispositif qui leur semble manquer de quelque sorte de crédibilité. Je pense que ce point est central et nous allons y revenir. Peut-être à la fin, pour terminer, également je reviendrai si j'ai le temps, mais ce qui est important, c'est que peut-être l'une des manières d'évaluer le dispositif en place, c'est de rappeler que ce dispositif n'avait pas l'adhésion des jeunes. Et qu'une bonne partie des jeunes ne faisaient pas confiance, en quelque sorte, à ce dispositif. Ils pensent d'ailleurs, et ils n'ont pas tout à fait tort, que les formations sont plus ou moins bidons, entre guillemets. Ils pensent qu'exactement que les bonnes affaires en matière d'emploi se concluent dans exactement des agences d'emploi, que exactement l'agence d'emploi n'est qu'une manière, je dirais, de légaliser, d'accord, des contrats qui se nouent ailleurs, d'accord, grâce à des logiques autres, qui sont des logiques communautaires, régionales, familiales, etc. D'accord, et que, en fin de compte, ce dispositif était plutôt une manière de pérenniser ou de rendre, de donner des gages à un système qui était très suspecté de la part des jeunes, parce qu'à leurs yeux, ils ne tournaient pas comme il fallait. Alors, je terminerai peut-être ce premier point avec un point très important en sens, qui est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé après la Révolution, d'une certaine manière. Alors, je dois te dire deux ou trois points pour conclure cette partie sur exactement la Révolution. Vous savez tous, je n'avais pas besoin de vous dire que la Révolution, bien sûr, est partie, le produit de ce processus que je viens de décrire, de cette frustration que je vais ensuite décrire de manière beaucoup plus détaillée. Mais la Révolution va changer un peu la donne, mais pas tout à fait. Sur le fond, en matière de règlement sérieux, si je veux dire le problème d'emploi des jeunes, rien ne va être fait, ou presque. Mais, sur d'autres niveaux, par exemple sur le plan politique, bien sûr, la donne est complètement changée. Je retiens trois éléments qui me semblent importants à souligner pour décrire la situation aujourd'hui. Le premier point est le suivant. C'est que les chômeurs diplômés, qui n'avaient aucun moyen de s'organiser avant la Révolution, contrairement au Maroc, où il y a eu depuis très longtemps un mouvement, une sorte de syndicat des diplômés sur lequel a travaillé mon serrateur opérateur, etc. En Tunisie, d'accord, la possibilité aux jeunes de s'organiser dans un collectif qui leur permet de défendre leurs intérêts et puis de réclamer, je dirais, des choses par des canaux officiels n'était pas possible. Cela est devenu possible après la Révolution avec la création de ce qu'on appelle l'UDC, l'Union des diplômés chômeurs en Tunisie, qui devient d'ailleurs, un syndicat assez important et qui, depuis maintenant quelques mois, joue un jeu politique assez trouble parce qu'exactement, il s'est rangé, au moins dans les dernières luttes, de la crise actuelle, du côté du front du syndicat. C'est-à-dire, il s'est mis avec le Massal et avec les autres partis d'opposition qui réclament le départ du gouvernement. Ça, c'est la première chose. L'UDC, la création d'un organe qui parle au nom des jeunes diplômés et des diplômés chômeurs en particulier. Deuxième élément très important, et ça a commencé avec, bien sûr, les événements du bassin minier à Daïf en 2008, c'est prolongé avec la Révolution, mais continue aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des problèmes de l'emploi des jeunes se traduisent par des mouvements, par des mobilisations collectives dans l'espace public. Et ça, c'est une donne quand même qui est très différente de ce qui se passait avant. Je vous rappelle juste un détail, mais qui est très très important, c'est que par exemple, l'industrie minière tunisienne, c'est-à-dire le phosphate, n'a pas pu fonctionner normalement depuis exactement la Révolution. Il y a toujours des mouvements de grève, des sit-ins, des blocages de routes, des blocages de chaînes de production, etc., qui étaient dus au fait que exactement les gens, ou les jeunes ne sont pas pris par la compagnie Sarzas, d'accord, la compagnie d'Ospat, et qui s'estimaient en droit de le revendiquer, d'accord, ont bloqué le processus de production. Et je pense que aujourd'hui, les pouvoirs publics sont censés régler ce problème. Troisième élément peut-être à noter, mais moi je pense que ça ne change pas grand-chose, tout compte fait, c'est qu'il y a eu, après la Révolution, avec le gouvernement de Jacques Sassi, qui est le troisième gouvernement après la Révolution, il y a eu le petit gouvernement Banoche, le premier, le tout premier, le deuxième Banoche, en quelque sorte, qui a duré un peu plus, 3 mois, et il y a eu le gouvernement Bachir-Princepsi à partir de février, je crois, 2011. Et depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Ramouchi, Bachir-Princepsi, il y a eu une refonte partielle, d'accord, du dispositif politique en matière d'emploi des jeunes, à travers, par exemple, la création d'une indemnité pour les chômeurs diplômés, d'accord, appelée AMEN, Espoir. C'était une indemnité un peu, une petite indemnité, je crois, de 120 dinars, quelque chose comme ça, c'est pas important. Et je crois penser que cette indemnité est remise en question aujourd'hui, qu'il y a un retour en arrière, parce qu'exactement avec la politique, avec la crise réelle que traverse la Tunisie aujourd'hui, en termes de ressources, de budget, etc., on dit que peut-être même les fonctionnaires de l'État ne seront pas payés depuis très peu de temps en Tunisie, qu'on vit grâce à la perfusion, si j'ose dire, du FMI, etc., et que, exactement, il y a une sorte de politique de rigueur qui se met en place et qui fait qu'on revient sur ce genre de mesures.